présentant qui comporte quatre articulations. Nous commencerons par une petite introduction. La deuxième va concerner ce que nous avons appelé la consolidation des acquis, les innovations comptables contenues dans la loi de finances et dans la circulaire relative à l'exécution du budget. Et nous allons clore notre propos par une petite introduction. Conclusion autant pour moi. L'introduction est basée sur la présentation des éléments de contexte. Tous les exposés qui ont précédé le présent exposé sont revenus de long en large sur le contexte qui a présidé à l'élaboration du budget de l'exercice 2022. Nous allons simplement procéder à une présentation énumérative sans rentrer dans le détail de chaque élément de contexte. Le premier élément, c'est l'implémentation des directives du cadre harmonisé de la gestion des finances publiques. Madame Tabignan, tout à l'heure, nous a dit « Nous commençons dès 2022 avec l'implémentation de la comptabilité dite patrimoniale. » En réalité, c'est la mise en œuvre, la mise en application des directives de la CEMAC qui impose les 6 États de la sous-région CEMAC à basculer dans la tenue de la dite comptabilité. Le deuxième élément de contexte, actuellement, nous sommes sous programme économique et financier 2021-2024 signé en relation avec le Fonds monétaire international. Le troisième élément, c'est la mise en œuvre de la vision 2035, dont la deuxième décade constitue la SND 30. Le quatrième élément de contexte, c'est la réalisation des travaux d'infrastructure dédiés à la CAN Total Énergie. Le cinquième, le ralentissement de l'activité économique mondiale du fait de la pandémie, la COVID-2019. Le sixième, la consolidation budgétaire marquée par le resserrement des dépenses publiques d'une part et l'élargissement de l'assiette fiscale et enfin les crises sécuritaires dont les uns et les autres ont parlé dans leur exposé. Concernant la consolidation, notre prise de parole va s'apesantir sur 5 éléments majeurs. Le premier relatif à la systématisation de l'émission des titres publics dont nous allons parler. Le deuxième, la réduction des délais de paiement que induit cette systématisation. La troisième, la maîtrise des restes à payer et des arriérés de paiement. Et tout à l'heure, nous allons bien évidemment parler de la région du Nord. L'accompagnement du processus de décentralisation. Le renforcement du contrôle de la discipline budgétaire. Et enfin, le renforcement du dispositif d'animation des activités des correspondants du Trésor et des régies. En ce qui concerne la systématisation de l'émission des titres publics, il faudrait dire que depuis 2014, le Trésor public intervient sur les marchés. Marché monétaire à travers l'émission des titres, notamment les bons et les obligations du Trésor, marché financier, les emprunts obligataires, et il y a quelque temps, nous avons parlé de l'eurobond. Qu'est-ce qui justifie cette intervention du Trésor sur les marchés? C'est tout simplement par le fait qu'aujourd'hui, la mobilisation des recettes budgétaires, comprenons par là les recettes fiscales et les recettes non fiscales, ne va pas toujours aussi vite que l'accroissement des dépenses. Vous savez, les populations sont de plus en plus exigeantes. C'est tout le monde qui veut avoir une route qui est bitumée, une école qui est construite dans sa localité, mais nous ne sommes pas toujours motivés quand il faut payer l'impôt en contrepartie. Par voie de conséquence, les recettes fiscales qui sont prévues dans le budget de l'État sont toujours inférieures par rapport aux dépenses qui de plus en plus sont galopantes. Et c'est donc pour cette raison que depuis pratiquement quelque chose comme 10 ans, chaque année, le budget de l'État est voté en déséquilibre. Regardons par exemple 2019. Sur un montant total de recettes fiscales et non fiscales de 3 800 milliards, on avait des dépenses de 4 400 milliards. Budget donc a été assorti d'un déficit de 628 milliards. En 2020, sur des recettes fiscales et non fiscales de 2 900 milliards, il y avait des dépenses votées au niveau du Parlement de 3 900 milliards, assorties d'un déficit de moins 987 milliards. En 2021, recettes fiscales et non fiscales de 3 400 milliards, dépenses de 4 000 milliards, déficit budgétaire de 662 milliards et enfin, 2022, sur des recettes fiscales et non fiscales de 3 900 milliards, des dépenses de 4 400 milliards, un déficit de 519 milliards. Il s'agit donc d'un déficit qu'il faut financer, notamment à travers l'endettement. Mais il ne s'agit pas d'un endettement infini, étant entendu qu'au niveau de la CEMAC, on nous dit le taux d'endettement ne doit pas être supérieur à 70% du PIB. Et bien évidemment, quand on s'endette, il y a un autre élément qui va apparaître, le déficit budgétaire. C'est donc de ce déficit budgétaire que nous parlons, mais à ce niveau également, la CEMAC nous dit attention, ce déficit ne doit pas être supérieur à moins 3% du produit intérieur brut. Pour le financer donc, il y a beaucoup de leviers sur lesquels l'État peut agir et au rang desquels les titres publics dont nous parlions tout à l'heure. Bons du Trésor, obligations du Trésor. Et nous constatons que dans la loi de finances 2019, l'État a agi sur le marché à travers une mobilisation des titres de 350 milliards. En 2020, il était prévu que le Trésor public mobilise les titres pour 420 milliards, en 2021, 350 milliards et en 2022, il est prévu l'intervention du Trésor public sur les marchés pour un montant total de 350 milliards. Sur le plan historique, qu'est-ce que cette situation a donné? Comment le Trésor public a-t-il agi sur les marchés pour financer le déficit budgétaire? Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Souvent, nous sommes beaucoup plus enclins parfois à parler des recettes fiscales et des recettes non fiscales, alors qu'il y a un autre moyen tout aussi important, voire déterminant, qui nous permet aujourd'hui de financer le déficit, c'est l'émission des titres publics à travers l'intervention du Trésor public sur les marchés. Tenons par exemple, en 2019, le Trésor public, il a mobilisé des titres pour un montant total de 403 milliards concernant les bons du Trésor, c'est-à-dire ces titres qui ont une maturité de moins d'un an. En 2020, il en a mobilisé 413, en 2021, 402. Pour les titres publics ayant une maturité supérieure à un an et au moins deux ans, il s'est retrouvé en train de mobiliser 237,9 millions sur les marchés, 360 milliards en 2020 et enfin 307 milliards en 2021. Et bien entendu, toujours en 2021, l'actualité récente a été fortement meublé par l'opération de rachat de l'Eurobond 2015-2025 pour un montant total de 450 milliards. Donc nous constatons que pour le seul exercice 2021, le Trésor public a dû intervenir pour sur les marchés et mobiliser un montant total de 1157 milliards indispensables pour la continuité financière de l'État. Et bien évidemment, cette mobilisation, nous allons le constater, a permis à l'État d'optimiser la politique relative à la gestion de l'endettement à travers la maîtrise des coûts d'endettement. Tenons par exemple, les bons du Trésor de moins d'un an qui ont été mobilisés coûtent aujourd'hui environ 2,5%. Avant 2014, le principe c'était les avances statutaires de la BEAC. C'est quoi les avances statutaires de la BEAC des découvertes? C'est-à-dire chacun d'entre nous aujourd'hui peut avoir un compte auprès de son banquier et à la veille des rentrées scolaires, son banquier lui donne la possibilité de tirer un peu d'argent à charge justement pour le banquier et récupérer le capital moyennant le paiement de quelques intérêts. Le Trésor public avant 2014 n'échappait pas à ce mode de fonctionnement. Et bien évidemment, ces découvertes n'étaient pas gratuites. Chaque fois que la Banque centrale accordait des découvertes au Trésor public, ils étaient assortis d'un taux d'intérêt de 3,5%. Nous constatons donc qu'il y a un gain réel, puisque depuis que le Trésor public a commencé à intervenir sur les marchés, le coût moyen de l'endettement aujourd'hui oscille autour de 2,5%, alors que quand la BEAC nous accordait des avances, il était de 3,5%. Aujourd'hui, nous constatons que nous avons un gain réel d'1%. Sur le plan des chiffres, comment est-ce qu'on pourrait quantifier justement ce gain? Remontons à 2019. Nous avons, sur la base du montant que je vous ai communiqué tout à l'heure, réalisé une économie ou alors des charges de dette à un taux de 2,5% de 10 milliards, alors qu'on aurait pu payer les charges de la dette de 14,1 milliards si on avait appliqué les 3,5% de découvert accordés par la BEAC. Donc sur le seul année 2019, le gain réel de trésorerie s'est élevé à 4,3 milliards que le Trésor public a pu gagner en intervenant sur les marchés. En 2020, un gain net de 4 milliards. En 2021, un gain net de 3 milliards, ce qui peut correspondre à la somme de 11 milliards. Donc nous constatons bien évidemment que ces 11 milliards ont été injectés dans le tissu économique pour payer les autres dépenses régulières de l'État. Il n'y a pas que les bons du Trésor qui bénéficient justement aujourd'hui de cette qualité de la signature de l'État. À côté des bons du Trésor, nous avons les obligations du Trésor. Il s'agit là des titres qui ont un niveau de maturité qui est supérieur à un an. Prenons l'exemple des titres, c'est-à-dire les obligations du Trésor qui ont été émis pour le seul exercice 2021. En 2021, le Trésor public a émis les obligations du Trésor d'un montant total de 347 milliards, avec des maturités différentes, c'est-à-dire des maturités de 2 ans au taux de 3,4%, des maturités de 3 ans au taux de 5%, 5 ans 5,5%, 6 ans 6%, 7 ans 6,50% et enfin 10 ans pour un taux d'intérêt de 6,5%. Quand on essaye de sommer tout cela, nous constatons aujourd'hui que pour les obligations du Trésor qui ont été émises pour un montant total de 347 milliards, le taux moyen en ce qui concerne les charges de la dette est de 5,55%. Or, si ce n'est pas nous-mêmes, nous avons tout au moins une connaissance, un ami, un membre de la famille qui fait des affaires. Et nous savons aujourd'hui que les projets d'investissement sont financés par le secteur bancaire à un taux moyen de 7,5%, c'est-à-dire pour une maturité de 5 ans. Nous constatons donc que, concernant les titres, c'est-à-dire les obligations du Trésor qui sont supérieures à un an, il y a également un gain réel, étant entendu que si on était allé au niveau du secteur bancaire classique, on aurait payé des intérêts de 7,5%. Or, nous sommes à 5,2%. Si vous essayez d'effectuer le calcul en termes de différentiel, nous avons gagné quelque chose comme 7 milliards d'économies, des charges de la dette qu'on aurait dû payer si on avait appliqué le taux d'intérêt de 7% qui est requis par les banques commerciales. Enfin, l'opération de rachat de l'Eurobond 2015-2025, qui était de 450 milliards rachetés à hauteur de 80%. Opération, bien évidemment, qui a été menée de main de maître par le ministre des Finances, ici présent, qui avait la charge de conduire la délégation de l'État du Cameroun. Opération soldée donc par un succès retentissant, étant entendu qu'elle a connu un taux record de coupon de 5,95% pour une maturité de 11 ans, alors que initialement, on aurait dû payer, si on n'avait pas procédé à l'opération de rachat, au paiement des charges de 9,75%. Nous avons également calculé, nous gagnons là une économie en termes de charges de dette qu'on aurait dû payer d'environ 20 milliards pour ce compte de cette opération. Nous constatons donc que la gestion active de la trésorerie de l'État, matérialisée aujourd'hui par la systématisation de l'intervention du Trésor public sur les marchés, porte des fruits, étant entendu qu'elle nous permet de gagner au niveau des charges relatives au paiement de la dette. Et nous constatons justement que ce gain, il est substantiel, il n'est pas négligeable. Et nous dirons donc pour la suite de notre intervention que ces gains-là font que nous avons une économie de trésorerie qui va être orienté vers le paiement des dépenses publiques et nous permettre de gagner en termes de délai de paiement. Concernant donc ces restes à payer, nous en venons. Nous constatons qu'ils ont diminué graduellement au fil des temps. Regardons en 2019. On avait des restes à payer total, c'est-à-dire au sorti de l'exercice 2019, de 543 milliards. Par restes à payer, on entend l'ensemble des titres qui sont dormants dans les postes comptables du Trésor, faute de trésorerie. Nous sommes au 31 décembre, on fait le tour de l'ensemble des postes comptables qui sont dans le réseau comptable du Trésor et nous sortons donc pour commencer l'exercice N plus 1 avec des impayés de N moins 1 ou alors de N. 2019, on avait 543 milliards. 2020, ça descend, 466 milliards. 2021, 310 milliards. Donc, bien que la situation ne soit pas des plus reluisantes, nous constatons que cette politique relative à la gestion active de la trésorerie de l'État nous amène au fil des ans à réduire progressivement le niveau des restes à payer constatés dans l'ensemble du réseau en fin d'exercice. Et bien évidemment, comme conséquence immédiate, on assiste également à un raccourcissement des délais de paiement des dépenses publiques. Regardons la situation au 3 janvier, c'est-à-dire hier, je pense que nous sommes aujourd'hui le 4. Hier, concernant les dépenses de l'exercice 2021, au niveau des payeries ministérielles, nous savons tous que depuis 2 ans pratiquement, il y a une grande réforme qui a voulu que pour les dépenses des services centraux de ministère, il y ait désormais une payerie ministérielle assignataire des dépenses du dit ministère. Donc, au 3 janvier, concernant les dépenses des ministères, chacune des payeries ministérielles aujourd'hui a payé les dépenses à fin septembre. Donc, toutes les prestations de l'exercice 2021 qui ont été effectuées sont payées aujourd'hui jusqu'au 30 décembre. Nous nous situons donc à un délai d'attente de 90 jours, qui est en cohérence avec la réglementation. Parce qu'aujourd'hui, la réglementation fait obligation à l'État de payer toutes les dépenses dans un délai de 90 jours après leur livraison par le prestataire. Qu'en est-il de la paierie générale du Trésor? Aujourd'hui, nous sommes au 30 juin. Donc là, je pourrais dire que nous dérapons quelque peu, étant entendu que quand nous procédons au décompte qui venait d'être fait, nous sommes à un délai d'attente de 180 jours, c'est-à-dire quelque chose comme 3 mois et demi, 4 mois. Et enfin, au niveau des trésoreries générales, et au rang desquelles la trésorerie générale de Garoua, nous sommes à un délai de paiement à fin octobre, nous sommes aujourd'hui le 3 janvier, dont un délai d'attente de 60 jours. Quand nous avons donc essayé de sommer 90, 180, 60 divisé par 3, aujourd'hui, dans l'ensemble du territoire national, nous sommes à un délai d'attente de 110 jours, donc quelque chose comme 3 mois et demi. Les directives CEMAP, la réglementation en vigueur, nous font obligation de contenir le délai de paiement dans un délai de 90 jours. Nous parlions tout à l'heure de mesures de consolidation et c'est l'un des défis majeurs qui interpelle le gouvernement. C'est donc pour cette raison que, au niveau de la gestion de la trésorerie et même en amont de la gestion budgétaire, les efforts sont en train d'être menés pour qu'en 2022, nous essayions de respecter le délai réglementaire qui est de 90 jours après la date de liquidation de la dépense. Donc, c'était ça le premier acquis dont nous avons l'obligation d'assurer la consolidation en 2022. Nous sommes aujourd'hui à 110 jours. Si on va à 120 jours en 2022, on aura regressé. Donc, il sera question pour nous d'améliorer justement cette performance en alignant les délais d'attente à 100 jours ou alors 90 jours dans le meilleur des cas. Autre élément de consolidation, c'est l'accompagnement du processus de décentralisation. Aujourd'hui, au niveau de la gestion de la trésorerie publique, des mesures sont prises, des dispositions pour que toutes les dépenses relatives à la décentralisation soient effectivement payées. Et les performances qui sont là font état des décaissements effectifs qui ont été mis à la disposition des entités territoriales décentralisées depuis 2018, 2019, 2020 à 2021. Donc, pour nous caler au seul exercice 2021, nous voyons que 232,1 milliards ont été effectivement payés pour le compte des collectivités territoriales décentralisées. À côté de cette dotation générale de la décentralisation, nous avons des centimes additionnels communaux qui sont reversés aux communes à une fréquence trimestrielle. Pour le compte de l'exercice 2021, qui est en train de s'achever, il y a 3 trimestres qui ont été déjà payés. 17,7 milliards pour le premier, 20,3 milliards au accord 4 pour le deuxième et enfin 18,8 milliards pour le dernier. Qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui, en ce qui concerne la gestion de la trésorerie publique, de réaliser de telles performances? Les élus locaux, je pense, sont dans la salle, c'est la création d'un compte dédié. Depuis pratiquement 4 ans, il y a un compte séquestre spécial décentralisation qui a été ouvert par le ministre des Finances auprès de la BEAC. Et ce compte est alimenté tous les mois à hauteur de 5 milliards uniquement pour le reversement des centimes additionnels communaux au profit des communes. Donc tous les trimestres, ça donne 15 milliards, ce qui nous permet d'être à jour. Mais je voudrais dire que structurellement, nous connaissons un décalage de 3 mois dans le reversement des CAC. C'est-à-dire, pour les CAC du premier trimestre sont reversés 3 mois plus tard. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'actuellement, au niveau des collectivités, vous avez tous encaissé ou alors vous êtes en voie d'encaissement du troisième trimestre alors que nous sommes en fin d'année. Et votre quatrième trimestre de CAC sera reversé à la fin du premier trimestre de l'exercice 2022. Donc, toutes les garanties sont mises en place. Un dispositif performant a été mis en place pour vous permettre de rentrer bien évidemment dans ces centimes additionnels communaux sur la base d'un calendrier décalé de 3 mois. Autre acquis que nous allons consolider bien évidemment en 2022, c'est le renforcement du contrôle de la discipline budgétaire. Madame Tabénian est revenue là-dessus de long en large. Nous n'allons pas véritablement insister sur tous les aspects. Nous allons nous appesantir sur deux. Le premier aspect va consister au strict respect des contraintes imposées par le calendrier comptable. En effet, pas d'ordonnancement reçu dans les postes comptables après le 10 janvier. Aujourd'hui, nous constatons que l'exercice budgétaire est élastique au niveau déconcentré. Jusqu'au mois de février, au mois de mars, dans les postes comptables, on continue de recevoir les ordonnancements de l'année écoulée. Si tel est le cas, finalement, on ne respecte plus le principe de l'autorisation préalable qui est donné pour 12 mois. Donc, à compter de 2022, toutes les machines au niveau des postes comptables du Trésor seront bloquées autant pour moi, afin que tout ordonnancement qui viendrait des contrôles financiers après la date du 10 janvier ne puisse être traité dans le système. Et bien évidemment, nous avons constaté également que la conséquence immédiate de cette situation, c'est la prolifération des réservations de crédits, des sauvegardes de crédits. C'est-à-dire en fin d'exercice, il y a des hommes d'affaires qui courent auprès des ordonnateurs, auprès des contrôleurs financiers et même des comptables assignataires pour qu'on puisse prendre en charge leurs titres de dépenses alors que les décomptes ne sont pas encore prêts. Bien évidemment, il s'agit d'un manquement grave étant entendu que cette liasse de dépenses dont on force la prise en charge au niveau du poste comptable du Trésor ne pourra pas faire l'objet de paiement, étant entendu qu'il n'y a pas de certification de service fait et bien d'autres choses. Donc avec cette réforme, ça ne sert à rien ou alors ça ne servira à rien pour vous de courir auprès des postes comptables pour forcer les prises en charge. Depuis la réforme budgétaire, il y a les techniques de report de crédit. Et je voudrais insister là-dessus. Ne nous mettons pas en tête qu'en fin d'exercice, si un projet d'investissement n'a pas été pris en charge, il est perdu, il est tombé dans le clos. Non. Il y a l'exercice de report qui permet leur intégration dans le budget quand vous aurez clôturé. Donc nous en appelons ici à beaucoup de vigilance de la part des contrôleurs financiers, de la part des comptables assignataires pour que les sauvegardes, la pratique des sauvegardes de crédit ne puisse plus prospérer à l'avenir. Et enfin, le dernier élément de consolidation qu'il faudra assurer en 2022, ça va être le renforcement du dispositif d'animation des activités des correspondants du Trésor et des régies. Parlant des correspondants du Trésor, nous ciblons ici les collectivités territoriales décentralisées et les établissements publics. Et à ce niveau, nous disons que tout devra être mis en place pour que l'exécution budgétaire se fasse dans les normes. Et d'ailleurs, Mme Tabénian, dans le cadre de son intervention, nous a dit qu'il y a désormais un guide pratique concernant les procédures budgétaires au niveau des collectivités territoriales. Il faudra l'exploiter et s'y conformer. Bien au-delà, il y a un système d'information budgétaire et comptable, l'application SIMBA, qui a été homologué par le ministère des Finances. Ici, les maires qui sont dans la salle sont les premiers concernés. Parce que nous avons constaté que parfois, les contrôleurs financiers, les comptables placés auprès des dites collectivités sont abandonnés à eux-mêmes. Encouragez-les, vous-même déjà, en prenant connaissance de cette application et en systématisant son utilisation dans vos collectivités territoriales respectives. L'un des effets en termes de valeur ajoutée qu'on gagne à travers l'utilisation de cette application, c'est que les budgets sont harmonisés dans l'ensemble des 384 collectivités territoriales que compte notre pays. Si par exemple Garoua 1 utilise un logiciel, Garoua 2 utilise un autre qui n'a rien à voir avec celui qui est utilisé par Garoua 1, comment est-ce que nous pourrons consolider, centraliser l'information de toutes les collectivités territoriales décentralisées que compte notre pays. Donc, systématisons, et là nous nous adressons particulièrement aux élus locaux de la région du Nord, l'utilisation de cette application de gestion budgétaire et comptable au niveau de vos communes. Ceci est également le cas des établissements publics. J'espère que nous avons quelques ordonnateurs dans la salle. Il y a une application de gestion budgétaire et comptable, elle aussi, qui a été homologuée à ce niveau, c'est l'application JIDOCEP. Elle également, elle nous permet d'avoir une présentation homogène des états de gestion budgétaire et comptable. Donc, il faut vous approprier ces applications et les mettre en fonctionnement effectif au niveau de vos entités. Et enfin, nous finissons par les régies. Nous avons constaté également que l'un des principaux points de faiblesse de l'exécution de cette procédure exceptionnelle, c'est qu'elles ne font pas systématiquement l'objet d'apurement en fin d'exercice tel que nous l'impose la réglementation en vigueur. Prenons l'exemple des régies d'avance. Il est fréquent qu'on mette à la disposition d'un régisseur une première encaisse. La réglementation interdit le déblocage de la deuxième encaisse tant que la première n'est pas apurée. Mais aujourd'hui, la première, elle est mise à disposition. La deuxième est également mise à disposition. En fin d'année, aucune régie n'est apurée. Nous voulons donc insister là-dessus. Pas de déblocage de l'encaisse suivante sans apurement de l'encaisse précédente. À ce niveau, trois intervenants sont interpellés. Les ordonnateurs, auprès desquels sont placés les régisseurs des caisses d'avance, les contrôleurs financiers qui sont chargés d'apurer ces régies d'avance, et enfin, les comptables auprès desquels sont assignés ces régisseurs des caisses d'avance. Enfin, nous avons les régies de recettes. Madame Tabignan en a également parlé. La seule chose que nous allons dire, c'est que quand les titres, c'est-à-dire les ordres de recettes, vont être émis en régularisation par les ordonnateurs, il faudra que les TPG, qui sont les comptables assignataires de ces régies de recettes, intègrent les opérations concernant les émissions dans leur comptabilité. Et bien évidemment, après visa du contrôleur financier. Donc, concernant la partie relative à la consolidation des équipes, voilà ce qui pouvait être dit. Et nous constatons consolidation à orienter vers l'amélioration de nos pratiques courantes. La deuxième partie de notre propos est axée sur les innovations comptables proprement dites contenues dans la circulaire 2022. Madame Tabignan l'a dit, année 2022, c'est l'année 1 de la bascule dans le système de la comptabilité patrimoniale. Et l'un des premiers éléments, ça va être l'alignement complet de la nomenclature des comptes du Trésor et bien évidemment de la nomenclature budgétaire de l'État au décret PCE et NBE, spécialement au niveau de la nature économique. Donc toutes les autres classifications ne changeront pas en 2022, ça va être uniquement la nature économique. Elle nous l'a dit, nous partirons des comptes à 4 chiffres pour des comptes à 6 chiffres ou à 5 chiffres. Nous ne nous cassons pas la tête. Je pense que dans le document qui a été remis à chacun d'entre nous, il y a des tableaux de correspondance qui sont contenus dans vos documents. Vous verrez dans une colonne à gauche l'ancienne imputation et dans une autre colonne à droite la nouvelle imputation qu'il faudra utiliser dès 2022, aussi bien dans PROCMIS, qui est l'application budgétaire, que dans CADRE, qui est l'application de comptabilité générale. Ceci étant dit, quelle est l'implication que la comptabilité patrimoniale va induire au niveau de nos systèmes d'information, c'est-à-dire PROCMIS et CADRE. En zone centrale, la première chose, ou alors la première exigence, c'est la constatation des obligations dès la liquidation de la dépense par les services de l'ordonnateur. Donc, au niveau des ministères à Yaoundé, où nous avons actuellement les payeurs ministériels, l'application PROCMIS va être interconnecté, c'est des travaux qui sont en train d'être achevés actuellement avec l'application du comptable. Et concomitamment, dès la liquidation de la dépense, le fichier va se retrouver dans les comptes du comptable assignataire avant même l'arrivée du dossier physique. C'est ça le système de la comptabilité en droit constaté. En zone déconcentrée pour le moment, les applications des ordonnateurs n'étant pas encore connectées aux applications des comptables, il faudra bien évidemment passer d'abord par le contrôle financier. et dès la validation de la liquidation par le contrôle financier, cette validation va générer une écriture de prise en charge chez le comptable assignataire de la dépense. Nous le disions donc tout à l'heure dans le cadre de notre intervention, les aménagements sont actuellement en cours de finalisation par la Direction générale du budget et la Direction générale du Trésor. En zone manuelle, pour l'instant, il n'y aura pas de changement. Je voudrais dire que ce système de comptabilité en droit constaté ne va pas uniquement concerner la dépense, il va aussi concerner la recette. Donc, concomitamment, dès qu'une émission va être faite, aussi bien par l'administration fiscale, Direction générale des impôts, Direction générale de douane, au même moment, cette émission-là sera prise en charge dans les livres comptables du Trésor. Donc, il n'est plus question pour nous, avec le système de la comptabilité patrimoniale, de regarder seulement ce qui tombe effectivement. Non, tout droit de l'État liquidé est enregistré dans les écritures, qu'il soit recouvré ou non, ce qui n'est pas le cas actuellement. Deuxième innovation introduite par l'exigence de tenue d'une comptabilité patrimoniale, c'est la fiche d'immobilisation dont Mme Tabenyan a parlé. Quelle est la particularité de la fiche d'immobilisation? C'est que celle-ci va affecter un code à chaque immobilisation acquise par l'État. Et tous travaux ultérieurs concernant cette immobilisation va être basé sur ce code-là. Si cette immobilisation a fait 10 ans, 15 ans, il faudra tout simplement taper son code pour revenir à la dite immobilisation et voir combien elle aura coûté à l'État, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et la deuxième chose relative justement à l'ouverture de la fiche d'immobilisation, c'est que désormais, elle affecte une durée de vie au bien immobilier acquis par l'État. En date du 3 janvier, le ministre des Finances a bien voulu procéder à la signature d'un arrêté fixant durée de vie des biens de l'État et cet arrêté venait de vous être distribué en salle. Cette mesure est prise dans l'optique de nous permettre d'optimiser la gestion du patrimoine de l'État. Oui, c'est ça la comptabilité patrimoniale. À terme, il faudra que tous les biens de l'État, bâtis, non bâtis, aient été recensés, valorisés et intégrés dans les comptes de l'État, ce qui n'est pas le cas actuellement. Troisième innovation, c'est la consécration d'un seuil significatif de 500 000 francs dans la comptabilité des immobilisations. De par le passé, quand il arrivait par exemple à l'État d'acquérir un ordinateur, même s'il coûtait 300 000 francs, on le comptabilisait comme une dépense d'investissement de classe 2. Or, sur la base du principe comptable de l'importance significative, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'il est pertinent pour nous de retracer une dépense de moins de 500 000 francs comme une immobilisation pour une entité aussi riche que l'État. Donc, cette information n'est pas significative. Il n'est pas pertinent pour nous d'assurer son suivi dans le temps, étant entendu qu'avec la réforme, c'est chaque immobilisation qui sera suivie sur la base d'un plan d'amortissement. Donc, avec la réforme et les ordonnateurs qui sont dans la salle, les contrôleurs financiers, les comptables assignataires, toute dépense, tant bien même il s'agirait d'une immobilisation par nature, si elle est inférieure à 500 000, vous l'engagez dans un compte de classe 6, les charges, pas dans un compte de classe 2, dont les charges, ça pourrait être un petit matériel de bureau, ainsi de suite, et en fin d'année, on balance dans le compte de résultat et on n'en parle plus. Or, la différence avec les IMO, c'est quoi? Les immobilisations sont reportées d'année en année à travers un plan d'amortissement qui est mis en place. Suivre une dépense de 500 000 pour une entité aussi importante que l'État en IMO, pour nous, ce n'est pas pertinent. Donc voilà une autre innovation intégrée dans la circulaire. La quatrième, qui n'est pas la moins importante, c'est l'obligation de recenser le patrimoine de l'État. J'en ai parlé tout à l'heure. Et en guise d'information, les participations qui constituent les actifs que détient l'État, au niveau des entreprises, certaines entreprises privées et certaines entreprises publiques, à ce jour, ont été intégralement recensées. Nous avons pu dénombrer un montant d'environ 600 000 milliards qui constituent justement les prises de participation de l'État au niveau des entreprises. Le deuxième élément aussi, c'est les passifs financiers qui sont en cours de finalisation de recensement. On est à peu près à 6 000 milliards qui ont été recensés et intégrés dans les comptes de l'État. Maintenant, pour les autres actifs, les bâtiments, les terrains, les véhicules, le recensement a été lancé. Et je pense certains d'entre vous ont pu suivre au niveau des médias qu'actuellement, il y a un recensement pilote qui est en cours de finalisation au niveau du département du Fundi à Yaoundé. Donc, dans les jours à venir, il y a des missions conjointes du ministère des Finances et du MINCAF qui vont descendre dans tous les confins du territoire national pour recenser les biens appartenant à l'État. Il faudra bien évidemment que tous les services administratifs apportent le concours qu'il faudra pour assurer le franc succès de cette opération-là. C'est important à recenser. Je l'ai dit tout à l'heure. Jouons le jeu, accompagnons cette réforme qui va nous aussi, en tant qu'intervenants, nous permettre de maîtriser chaque bien que l'État possède. Aujourd'hui, il est facile d'aligner les voitures de l'État. Il est facile d'aliéner les bâtiments de l'État. Justement, aujourd'hui, nous constatons que ce patrimoine privé de l'État n'est pas optimisé. On a des gens qui habitent demain. Après-demain, on constate que ça appartient à quelqu'un d'autre sans traçabilité particulière. Cette réforme vise à sauvegarder et à optimiser la gestion patrimoniale des biens publics. Autre innovation induite par la réforme, qui prendra compte dès 2022, et le ministre des Finances ici présent a pris le soin d'insister là-dessus, c'est l'élargissement du périmètre du compte du Trésor. Actuellement, tous les travaux sont menés pour que dès le mois de mars 2022, c'est-à-dire dans 3 mois, on bascule effectivement dans le compte unique du Trésor. Quelle va être la conséquence première de cette bascule? C'est que nous allons assister, autant pour moi, à la fermeture des comptes qui sont actuellement ouverts dans les banques centrales. Les communes, les établissements publics, les projets à financement conjoint et d'autres administrations. En liaison avec la Banque centrale, à ce jour, nous avons pu recenser quelque chose comme 1000 comptes dormants dans les banques commerciales avec un solde avoisinant 1500 milliards de francs CFA qu'il faudra bien évidemment fermer et rapatrier de façon progressive au niveau du Trésor. Essayons de réfléchir. Tout à l'heure, nous avons parlé des restes à payer en fin d'exercice. Vous avez vu qu'en 2019, nous étions à moins de 500 milliards. En 2020, nous étions à quelque chose comme 400 milliards. En 2021, nous sommes à 311 milliards. Si on avait le contrôle sur ces 1500 milliards qui sont dormants aujourd'hui au niveau du système bancaire, on ne se retrouvait même pas du tout gérant les tensions de trésorerie. Donc, ce qu'il convient de dire, c'est que l'État est moins pauvre qu'on le pense. L'État est plus riche, mais il a une faiblesse en ce qui concerne la gestion de sa trésorerie actuellement, c'est qu'il n'en dispose pas le contrôle. Il y a beaucoup d'entités qui préfèrent laisser leur trésorerie dormir au niveau des banques, ne pas l'utiliser, alors que nous en avons véritablement besoin. Et il n'est pas impossible, quand la réforme va prendre corps, que nous voyons également le Trésor qui place ses excédents du trésorerie au niveau du système bancaire. C'est-à-dire, tel que les banques nous prêtent de l'argent aujourd'hui, nous également, nous faisions des placements. C'est ça que le Trésor public occidental font. Quand on vous dit qu'ils sont tous les jours sur le marché. Donc, arrêtons d'être tout le temps en position de commandeur. Jouons véritablement le jeu. Et ici, je voudrais m'adresser aux responsables des collectivités qui sont dans la salle et les responsables d'autres entités qui ont des comptes dormants au niveau du système bancaire pour que cette réforme prenne véritablement corps. Et enfin, la dernière innovation à laquelle nous allons assister en fin d'exercice, ça va être la création des comités d'inventaire. Quand nous sommes souvent allés dans le privé, allés dans une pharmacie, c'est un exemple que je prends en fin d'année, vous allez trouver fermé travaux d'inventaire. Au niveau de l'État central, au 31 décembre 2022, nous allons également nous engager dans les travaux d'inventaire. Matérialisés dans un premier temps par la création des commissions d'inventaire au niveau de chaque région, constituées respectivement. Pendant qu'elle ouvre, je continue. Donc, matérialisés par la création des comités d'inventaire au niveau de chaque région, constituer des contrôleurs financiers, constituer des comptables, constituer des comptables matières. Merci beaucoup. Très touché et sensible par les attentions de cette jeune dame. S'il vous plaît. Merci. Donc, je disais par la création des comités d'inventaire au niveau de chaque région et leur travail en fin d'exercice, les travaux d'amortissement, les travaux de charges à payer et beaucoup d'autres travaux encore sur lesquels vous allez être sensibilisés au courant de l'exercice 2022. Globalement, ce que nous allons dire en guise de conclusion, c'est que l'année 2022, c'est l'année 1 de mise en œuvre de la comptabilité patrimoniale et qu'à ce titre, 2022 sera sans nul doute une année déterminante dans la mise en œuvre de la réforme des finances publiques dans notre pays. Cette réforme qui engage l'État dans une exigence de transparence et de qualité comptable va être soldée en fin d'exercice par la production d'états financiers. Ces états financiers, bien évidemment, seront appelés à être améliorés au fil des temps. Mais à quel niveau nous sommes interpellés? Nous les ordonnateurs, nous les hommes d'affaires, nous les contrôleurs financiers, nous les comptables, c'est qu'on applique à la lettre la réglementation, étant entendu que dès cette date, nos comptes vont être soumis à l'analyse au regard de la Chambre des comptes qui va agir comme le commissaire aux comptes de l'État. Je vous remercie.
Bien, M. Bassard, nous vous remercions. Mesdames et Messieurs,